La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. C'est un domaine des sciences du cerveau qui s'intéresse au langage. Son objet est de comprendre comment les mots, justement, viennent à notre cerveau. Le cerveau qui possède des circuits du langage et de la parole avec des gènes dédiés au langage. Et dans certains cas, l'expression de ces gènes dysfonctionne et provoque des anomalies du langage. Le dossier de la tête au carré s'intéresse donc cet après-midi aux maladies de la parole. Nous verrons pourquoi, par exemple, on ne peut plus parler après un accident vasculaire cérébral ou pourquoi ça coince dans le bégaiement. On évoquera également l'aphasie, la dyslexie avec Anne-Lise Giraud, spécialiste du langage et de ses pathologies. Elle est mon invitée dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui, on va partir aux champignons et cette saison.
Oui, et celui dont nous allons parler est sacrément grand. Il va vous falloir un bon gros panier puisqu'il mesure 10 km².
Ah oui.
L'armillaire couleur de miel fait ça une de la science tout de suite.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, je recevrai le neurologue Lionel Nakache avec lequel j'aurai le plaisir de vous proposer une série de conférences sur le cerveau avec le premier volet qui va se dérouler mardi 6 novembre autour de la mémoire qui sera à suivre au Studio 104 et dans plus de 100 salles de cinéma en France. On vous donnera tous les détails d'ici quelques minutes. Stéphanie Texier est aujourd'hui aux commandes de l'émission qui a été préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Anne-Lise Giraud.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bienvenue à vous. Le cerveau et les mots de la parole, ce sera donc le dossier dans un instant à l'occasion de la sortie d'un ouvrage que vous publiez donc sur la question aux éditions Odile Jacob. Quel est finalement le point commun entre toutes les pathologies du langage dont on va parler ensemble? Est-ce qu'il y a des choses vraiment en commun? Est-ce que tout est relié à une zone spécifique du cerveau?
Alors il y a plein de choses en commun, effectivement, il y a des zones du cerveau qui sont en commun et puis il y a des mécanismes génériques qui peuvent dysfonctionner dans le langage et qui sont extrêmement importants. La parole, c'est un signal qui se déroule dans le temps. Donc tout notre système de perception de la parole va devoir énormément traiter la temporalité, contrairement au système visuel où c'est la spatialité qui est le plus important.
Ouais, et je le disais donc, tout à l'heure, on va parler de dyslexie aussi, hein, d'ailleurs. Mm-hmm. Ça fait partie de ces pathologies, ce qui est plutôt étonnant d'ailleurs, de prime abord.
Donc la dyslexie en effet. De temps en temps peut être une pathologie visuelle, il y a eu des articles là-dessus, mais en ce qui me concerne, c'est une pathologie de la perception de la parole.
Eh bien, on va explorer tout ça ensemble dans quelques minutes avec les questions et les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé « la TAC ». Et à la une, aujourd'hui, on s'intéresse donc à un très grand et très vieux champignon, Axel.
Oui Mathieu, 2500 ans, c'est son âge, et 10 km², c'est l'espace qu'occupe cet armillaire à couleur de miel dans sa forêt natale du Michigan. C'est un champignon, un des plus grands et des plus vieux êtres vivants de la planète qu'on vous présente aujourd'hui.
Alors 10 km², c'est la taille d'un individu ça, Axel?
Oui, en fait, c'est la surface estimée de son réseau de mycélium qui circule sous le sol de la forêt. Mmh. Et des chercheurs canadiens ont présenté la semaine dernière une étude de sa génétique et de son évolution, et on en discute avec vous, Francis Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste pour l'INRA à Nancy, au laboratoire d'excellence Arbre. Alors, armillaire à couleur de miel, c'est un très joli nom hein, pour un géant. D'où est-ce qu'il lui vient ce nom et à quoi est-ce qu'il ressemble ce champignon?
Les armillaires sont des champignons parasites et en même temps des composeurs du bois. Ils vivent dans les forêts, associés aux arbres. Et leur couleur est celle du miel. Donc les mycologues, il y a très longtemps, leur ont donné ce joli nom, armillaire couleur de miel, mais ce sont des parasites qui font parfois des dégâts assez considérables dans les forêts.
Mais alors on en trouve un peu dans toutes les forêts de ces géants, sans le savoir?
Dans toutes les forêts des régions tempérées, en Amérique du Nord, en Europe, on trouve des armillaires. En fait, on les appelle souvent des souffiers. On trouve ces plusieurs dizaines, parfois même plusieurs centaines de fructifications de chapeaux de champignons sur les souches des vieux arbres.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a affaire à un seul et même individu sur toute la même forêt?
Mais en fait, on va utiliser les mêmes techniques que celles utilisées par la police scientifique. On utilise les empreintes génétiques, le diagnostic ADN. Il suffit alors aux forestiers, aux mycologues de parcourir la forêt, de prélever des fructifications ou de prélever, comme c'est le cas de cette étude, les filaments microscopiques qui s'agglomèrent parfois pour former ce qu'on appelle des rhizomorphes. Ça ressemble à des lacets de chaussures qui se développent entre l'écorce et le tronc. Il suffit de récolter ces échantillons, de les ramener au laboratoire laboratoire, d'extraire l'ADN et d'obtenir une empreinte génétique. Si toutes les empreintes génétiques de l'ensemble des échantillons prélevés sont identiques, on considère qu'on a affaire au même individu génétique.
Mais est-ce que tous ces filaments sont reliés? C'est-à-dire, si on donne une information à un endroit, ça peut parcourir les 10 km carrés? Est-ce que vraiment il y a des transferts dans tout l'individu?
Absolument. Alors, on n'a pas été vérifié précisément dans cet énorme armillaire de la forêt du Michigan, mais on a des informations qui viennent d'autres expérimentations, et on s'aperçoit que ces colonies souterraines de champignons, hein, qui se développent sur plusieurs mètres carrés, sur plusieurs centimètres de carrés, ici plusieurs kilomètres carrés, sont interconnectées. Alors... Les filaments sont capables de faire passer des signaux ou des éléments nutritifs d'une partie de la colonie à une autre partie de la colonie en fonction de la quantité de nutriments disponibles dans le sol de la forêt.
Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à sa génétique, à ce champignon géant? Qu'est-ce qui intéressait ces chercheurs canadiens?
En fait, c'est les forestiers américains qui, en traversant cette forêt, ils se sont aperçus que plusieurs arbres étaient malades. Ils se sont interrogés sur l'origine de cette maladie, de ce dépérissement forestier. Ils ont fait appel à des phytopathologistes, et ces phytopathologistes canadiens ont découvert ce champignon, l'armillaire couleur de miel, et d'autres armillaires d'ailleurs, mm-hmm. sont des parasites de faiblesse. Quand l'arbre est affaibli par une sécheresse ou par des attaques venant d'insectes, cet armillaire, qui normalement est un décomposeur, relativement inoffensif, peut basculer et devenir un pathogène qui détruit affaiblit les arbres. Donc c'est sur la demande des forestiers inquiets pour leur parcelle et leur forêt que ces phytopathologistes américains ont développé cette expérimentation qui remonte à la fin des années 80. Mmh. Et là, ils viennent de retourner sur le site de cette expérimentation initiale pour voir si cet organisme géant existait toujours et quelle taille il avait.
Justement, Francis Martin, 10 km carrés de surface, ça vous paraît être quelque chose de totalement hors norme ou finalement, quand on connaît bien le monde des champignons, c'est pas si étonnant que ça?
Non, c'est hors norme pour nous, Européens, parce qu'en fait, dans le cas de ces champignons qui sont associés aux arbres, évidemment, la colonie de champignons ne peut avoir que l'âge de la forêt qui l'héberge. Et des forêts qui ont plusieurs milliers d'années, en Europe, on n'en trouve quasiment plus. La plupart des forêts françaises vont avoir quelques centaines d'années. Donc on va dans les Vosges, par exemple dans le massif des Vosges ou dans le massif central, on peut trouver des très vieux champignons qui ont quelques centaines d'années. Mais personnellement, j'ai jamais rencontré de champignons ayant plus de 300 ans.
Alors quel est l'avantage pour le champignon en lui-même, l'avantage évolutif à ne pas se reproduire et à grandir comme ça en se clonant à l'infini presque?
Aujourd'hui, on ne le sait pas. En fait, les mycologues ou les microbiologistes qui travaillent sur les champignons constatent que ces organismes peuvent se multiplier sous forme végétative, clonale, comme cet armillaire qui se divise année après année depuis 2000-2500 ans. Et puis d'autres champignons, prenons un exemple, l'acaire couleur d'améthyste qu'on rencontre beaucoup dans les sous-bois cet automne, mais lui va privilégier la reproduction sexuée. Ces individus vont faire quelques centimètres carrés et ils vont être remplacés chaque année.
D'accord.
Donc on a des champignons, il y a des espèces de champignons qui vont privilégier la reproduction sexuée. D'autres, comme l'armillaire couleur de miel, la reproduction végétative. Et très honnêtement, je dois avouer que nous ne savons pas pourquoi les champignons vont privilégier tel ou tel mode de reproduction. Ça reste un grand mystère.
Et donc si cette forêt perdure très très longtemps, ce champignon restera et vieillira à l'infini alors?
Oui, on pense que les champignons sont immortels.
D'accord.
Donc si cette forêt existe encore dans 5000 ans, les microbiologistes qui parleront la tête au carré dans 5000 ans pourront dire « Ah ben voilà, l'organisme a cette année 8000 ou 7500 ans ».
Est-ce qu'on les mange ces champignons, en tout cas les bébés de ce champignon?
L'armillaire couleur de miel n'est pas un grand comestible.
Hein. Ah,
j'ai eu l'occasion d'en manger avec un gigot de sanglier, ça passe, mais c'est pas un grand comestible.
Donc les champignons sont immortels. Moi j'aime bien cette phrase.
Oui,
ça nous suffit pour faire notre journée, Francis Martin.
Très bien.
Il faut absolument, oui, parce qu'on va en reparler bien sûr avec vous des champignons. Vous allez sortir un ouvrage d'ailleurs sur la question en janvier prochain. On connaît mal d'ailleurs ce monde des champignons. Hein. Ce sont des organismes pourtant extrêmement importants dans le vivant qu'on méconnaît. Hein.
Absolument. Ils sont invisibles, à l'exception de cette période automnale où ils produisent leur fructification, les champignons à chapeau, bien visibles, que certains ramassent et récoltent. Mais sinon, ils sont là, ils sont présents, ils forment une forme de vie extrêmement importante. Il y a 5 millions d'espèces, ils ont un rôle aussi important que les plantes et les animaux, mais ils sont malheureusement trop souvent négligés, malgré leur importance écologique.
Merci.
Ils sont indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers.
Merci pour votre éclairage, en tout cas, Francis Martin. On se retrouvera donc bientôt dans La Tête au Carré. Et Axel, dès demain pour la Une de la Science.
Allez, on fait ça, à demain.
Allez, dans le reste de l'actualité, le LSD, qui fait doucement son retour dans la recherche avant d'être classé comme drogue et associé au mouvement hippie des années 60, le diéthylamide de l'acide lysergique avait été utilisé comme médicament. Son découvreur, le chimiste Albert Hofmann, a d'ailleurs toute sa vie défendu ses vertus thérapeutiques. Après de longues années de dénigrement, le LSD pourrait donc faire son retour dans le cercle des molécules qui soignent et qui soulagent, notamment en psychiatrie ou en traitement complémentaire dans certains cas de cancer pour gérer les angoisses. Deux études sont en cours chez l'homme en Suisse et en Angleterre. Des bébés souris issus de deux mamans, c'est l'Académie chinoise des sciences qui publiait en fin de semaine dernière cette nouvelle. Pour obtenir ces souriceaux, les chercheurs ont utilisé les cellules souches embryonnaires d'une mère qui ne contiennent que la moitié des chromosomes et les ont injectées ensuite dans des cellules d'œufs d'une autre mère. La descendance des souriceaux bimaternels a pu se faire, donc ils ont grandi jusqu'à l'âge adulte, ont eu eux-mêmes des descendants. Une technique plus complexe leur a également permis d'essayer de produire à ces scientifiques des souriceaux bipaternels qui, eux, n'ont vécu que quelques jours. Et puis comment apprendre à chanter au bruant des prés? Une équipe de chercheurs sur l'île de Kent au Canada a décidé de voir si ces oiseaux étaient capables de reproduire une mélodie diffusée dans des haut-parleurs. Ils ont donc soumis les oisillons à une nouvelle mélodie pendant les périodes clés de leur apprentissage du chant, c'est-à-dire l'été de leur naissance. Et bien résultat, les oiseaux ont non seulement retenu la chanson, mais l'ont aussi transmise à leur propre descendance. Les mots de la parole dans un instant, dossier de La Tête au Carré. Tangerine, c'était Christophe et Alan Vega.
La Tête au Carré sur France Inter.
Annelise Giraud, spécialiste du langage et de ses pathologies, vous êtes avec nous cet après-midi, directeur de recherche au CNRS, professeur ordinaire, c'est comme ça qu'on dit à l'université de Genève, et vous dirigez là-bas un laboratoire de recherche justement sur le cerveau, l'audition et le langage. C'est quoi un professeur ordinaire d'ailleurs?
C'est un vieux professeur.
pas,
qui a bien travaillé.
Pas. Vous ne les faites pas. En tout cas, vous publiez Le cerveau et les mots de la parole, aphasie, dyslexie, surdité, bégaiement, entre autres. C'est aux éditions Audit Jacob. De quoi s'occupent exactement d'ailleurs les neurosciences du langage alors?
Ah bah, elle s'occupe de ce qu'on fait d'elle, hein. Donc on invente un mot, neurosciences du langage, quand on s'intéresse à la partie du cerveau qui est spécialisée dans le langage. Moi, c'est même plus la parole encore que le langage. Il y a une nuance entre parole et langage, puisque la parole, enfin le langage écrit n'est pas la parole. Donc je suis plus spécialisée là-dedans. Donc ça fait depuis toute ma carrière. Donc on va dire depuis 97. Ça fait déjà long. Je n'ai travaillé que là-dessus. Et sur les mots de la parole, il faut peut-être préciser que c'est M-A-U-X.
Évidemment.
Voilà, parce que sinon, ça n'a pas grand sens. J'ai surtout voulu comprendre comment les mots venaient à nous.
Ouais.
Comment ils viennent, ils se génèrent dans notre cerveau, comment ils nous aident à penser, est-ce qu'on pense avec les mots, est-ce qu'on pense autrement, et puis les pathologies évidemment aident à comprendre.
C'est ça, c'est toujours ce qu'il faut comprendre justement, c'est que grâce aux pathologies, eh bien, on peut arriver à comprendre le fonctionnement normal des choses.
Hein.
Et ça c'est très précieux, pour la connaissance scientifique.
Absolument.
Et dans ce laboratoire, alors qu'est-ce que vous faites et comment vous étudiez le cerveau alors, dans tout ce domaine?
Alors, traditionnellement, je viens du champ traditionnel des neurosciences cognitives et donc de l'imagerie cérébrale. Donc beaucoup de ce que j'ai fait, de ce que je décris dans le livre, vient de ce grand boom des neurosciences cognitives avec l'imagerie. Maintenant, dans mon laboratoire, on fait des choses un peu plus détaillées. On fait de la modélisation neurocomputationnelle, beaucoup, pour essayer de comprendre de façon très très fine ce qui se passe dans le cortex auditif, comment se fait la transformation d'une onde acoustique en un symbole. Donc il y a des mécanismes très précis, donc on étudie comme ça. Et puis on étudie également beaucoup des patients qui ont des électrodes implantées dans le cortex. Donc ils ont ça pour des raisons médicales, en général c'est des patients épileptiques. Et nous, on prend l'opportunité d'avoir accès à ces patients qui sont hospitalisés et qui s'ennuient pendant 2 semaines avec leurs électrodes. Et on leur présente nos expériences et ça, on a des informations absolument clés sur les micro-mécanismes.
Ça, c'est quelque chose de courant, d'ailleurs, de poser des électrodes pour un certain nombre de pathologies du cerveau, comme ça?
Pas du tout. Il y a des pathologies où on pose des électrodes de stimulation. Là, l'épilepsie, c'est des électrodes d'enregistrement. Je pense que c'est à peu près la seule pathologie où on a besoin de savoir où est le foyer épileptogène. Et du coup, on est obligé de mettre ces électrodes. Donc c'est pas fréquent. Non, nous à Genève, il y a peut-être 8 patients par an, quelque chose comme ça.
Il y a beaucoup de personnes concernées justement par ces maladies du langage. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent alors? Parce que la liste, effectivement, on la découvre en lisant votre ouvrage.
Si on met bout à bout tous les troubles du langage, je pense qu'on arrive à énormément, peut-être 20% de la population, voire la dyslexie c'est déjà 5 à 7%, le bégaiement 3%, les aphasies il y en a énormément aussi, enfin les AVC, beaucoup d'entre nous risquent d'avoir un AVC et c'est vrai que ça touche quand même assez fréquemment les zones du langage. Donc oui, mis bout à bout, les mots de la parole, c'est pas banal.
Alors vous dites que vous avez toujours été fasciné par les mots, mais aussi par la puissance des mots tu.
Mais oui,
c'est ça.
Mais je sais pas, je dois être très très linguistique dans mon cerveau et du coup, personnellement, ma pensée est extrêmement extrêmement linguistique. Mais je pense que c'est pas du tout le cas de tout le monde. Il y a des gens qui voient énormément en vision, en visuel. Et les mots tu, les mots tu ont un impact. Ça, c'est assez connu qu'il y a des cas de trauma liés au fait que les choses n'ont pas été dites. Et que c'est aussi dans le cerveau d'un enfant, c'est mieux quand les choses sont formulées, puisqu'on peut mieux gérer les émotions si on a formulé ce à quoi l'enfant a été confronté. Donc oui, je pense que les mots, c'est pas seulement percevoir les mots, c'est énorme dans notre cerveau en relation avec le système émotionnel.
Alors justement, si on imagine le cerveau et ses zones du langage et de la parole, il y a vraiment une cartographie très délimitée de ces espaces?
Oui, alors donc notre cerveau langage, c'est le cerveau gauche. Donc déjà, il y a
tout
cette division.
Gauche,
Il y a des choses qui sont bilatérales, mais pour simplifier, on peut dire que c'est extrêmement à gauche. Donc, on a notre cortex auditif. À l'arrière du cortex auditif, on a une zone qui est spécialisé dans la perception de la parole. Et puis à l'avant du cortex auditif, dans le cortex frontal, on a la zone dédiée à la production de la parole. Et ces deux régions sont reliées par deux faisceaux de fibres, une qui passe par la partie supérieure du cerveau, une autre par la partie inférieure.
C'est comme les réseaux de champignons dont on parlait tout à l'heure, finalement. C'est une espèce de maillage de réseau.
Ouais. Je pense que le réseau du langage est très important dans le cerveau, bien évidemment.
Alors, au début de l'ouvrage, avant même d'arriver justement aux pathologies, vous évoquez l'évolution du langage chez Homo sapiens, enfin chez l'homme d'ailleurs, avant même Homo sapiens, chez les hominidés, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits d'ailleurs aujourd'hui sur les primates, les grands primates, les grands singes, pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'on a une idée vraiment, est-ce qu'on peut dater l'apparition du langage chez les hominidés?
Alors, oui, la datation, ça c'est une chose, c'est pas forcément la plus intéressante en ce qui me concerne, c'est plutôt les mécanismes, de comment le langage est venu à nous.
Mais nous, ça nous donne quand même des repères temporels, et c'est pas inintéressant.
200 000, voilà.
250 000, on sait pas trop.
On sait pas trop. 800 000, ça peut aller jusqu'à 800 000. Ouais. On sait pas trop, puisqu'on a trouvé donc des artefacts dans des fouilles archéologiques, des objets qui font penser.
Les fameuses Vénus, par exemple.
La Vénus de Berekat, qui font penser qu'il y avait déjà un certain niveau d'abstraction symbolique et tout ça. Est-ce qu'il y avait langage? C'est pas du tout évident.
Sinon, puis il y avait des proto-langages, enfin vraiment le tout début du langage.
C'est
quelque chose de très guttural peut-être.
Ouais, très certainement. Donc l'idée, c'est qu'il y a eu le geste qui a un intérêt lorsqu'on est en situation de prédation. Il vaut mieux faire un geste que vocaliser. Donc le geste est très important, il a probablement été là avant toute chose. Ensuite, il y a eu des vocalisations qui se sont greffées sur le geste pour l'accompagner et puis qui ont un autre intérêt qui est par exemple si les individus sont dans une forêt, des primates dans une forêt, pour communiquer avec un être qui est distant, il vaut mieux vocaliser. Donc voilà, on pense aussi que c'est parce que on a commencé à gestualiser plus avec la main droite dans un contexte aussi de prise alimentaire, que les vocalisations se sont rajoutées là-dessus et que du coup, ça a occupé le cerveau gauche, puisque c'est le cortex moteur gauche qui va contrôler la main droite.
C'est ça.
Voilà, donc ça c'est une hypothèse, il y en a d'autres. Voilà.
Et on peut imaginer aussi que ces premiers sons, ces premiers cris, sont arrivés aussi de façon non voulue, parce qu'évidemment, on voit bien nous-mêmes qu'on a des réflexes parfois et que ça passe par la vocalisation, justement.
Ouais. Donc le cri, c'est autre chose. Il y a tout un domaine de recherche sur le cri qui est très instinctif, très émotionnel, etc. Le langage, c'est différent. Le langage, la définition, c'est quand même l'utilisation, la combinaison d'éléments linguistiques que justement on peut combiner à l'infini.
Ouais.
Donc c'est quand même très complexe. Et donc il y a des théories linguistiques qu'on appelle saltationnistes qui pensent que le langage, on ne peut parler de langage qu'à partir du moment où il y a syntaxe, des opérations syntaxiques très particulières. Et moi, j'appartiens plutôt à un courant plus évolutionniste où on commence à parler de langage avant l'homme, puisque avec l'intention de communiquer, on commence déjà à pouvoir parler de langage.
Annie Giraud, justement, qu'est-ce qui nous distingue fondamentalement finalement des autres animaux autour de ce langage? Morphologiquement, on a vraiment des choses tout à fait spécifiques.
Alors, il y a la théorie de la position du larynx qui est effectivement... donc, il y a des critères anatomiques qui permettent le langage. Mais permettre, ça ne veut pas dire que ça soit... Enfin, c'est pas une condition suffisante. Donc, on s'est rendu compte assez récemment, en fait, que les chimpanzés, ils pourraient parler, si vous voulez. On a longtemps cru que c'était pas possible.
Mais ils ont un larynx aussi, les chimpanzés?
Oui, c'est une question de position, en fait, du larynx. Donc, il faut qu'ils descendent. S'il est trop haut, ça marche pas. Mais visiblement, c'est pas la limitation, elle est pas là. Et il me semble beaucoup plus intéressant de voir l'apparition du langage justement par rapport au traitement temporel. C'est-à-dire que avec la complexification de notre cortex préfrontal, on est de plus en plus capable de prendre en compte une information qui est étalée dans le temps. En gros, si je suis un chien, je sais pas, je vais réagir de façon réflexe et je vais avoir assez peu de vue dans le domaine du temps sur les causes et les effets. Plus on est capable d'intégrer dans le temps, plus on va pouvoir établir des liens de cause à effet. Et c'est cette causalité qui va créer l'apparition de mots nécessaires pour décrire la causalité. Et du coup, on arrive vers la syntaxe, simplement en évoquant des capacités, on va dire, entre mnésiques et de planification qui prennent en compte une grande... fenêtre temporelle.
Vous dites finalement ce qui caractérise aussi fondamentalement le langage, la parole chez l'homme, c'est la rencontre entre la phonation, la communication symbolique, l'apprentissage vocal et auditif. Voilà, c'est cette combinaison fait qu'on est un petit peu quand même singulier. Hein.
On est singulier, mais effectivement, c'est la conjonction de tout ça qui probablement a permis au langage...
Et chez les enfants, ça commence très tôt. Hein.
Bien sûr.
Vous évoquez le petit d'homme.
Le petit d'homme, bah oui, le baby. Et puis voilà, c'est très câblé. Ouais. Hein,
Est-ce qu'on peut voir d'ailleurs dans le cerveau des enfants l'évolution de la parole? Est-ce qu'il y a des traces biologiques
d'évolution? Ah oui, des traces biologiques d'évolution de la parole. Alors, on est câblé pour parler, je veux dire, mais un petit homme ne va pas parler si on ne lui apprend pas à parler. Néanmoins, il va être très asymétrique, c'est-à-dire il va déjà, tout petit, avoir le langage à gauche et traiter les indices de parole à gauche, alors que les indices vocaux de voix de sa maman, etc., ce sera plutôt avec son hémisphère droit. Donc, il y a des traces très précoces du fait qu'on est câblé pour le langage. Et puis, dans le cerveau adulte, on peut aussi voir des traces des origines du langage, dans le sens où si on prend un cerveau adulte et qu'on ne le soumet pas à la parole, on regarde juste comment ça se passe au repos, on voit qu'on a un espèce de réseau de base qui est déjà latéralisé à gauche et qui comporte le cortex moteur, la zone des mouvements des lèvres, le cortex auditif, le cortex somatosensoriel, puisqu'on a toujours besoin, quand on parle, de recevoir les sensations qui accompagnent notre parole. Et donc, on a ce réseau de base qui nous indique en fait qu'est-ce qui a été nécessaire et qu'est-ce qui a permis l'émergence de la parole.
Allez, Anne-Lise Giraud, vous êtes l'invitée cet après-midi de La Tête au Carré, le cerveau et les mots de la parole, MAUX, c'est chez Odile Jacob. On va justement entrer dans les pathologies du langage avec vous dans un instant et avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr. Les roues. meurt pas d'amour. C'était Clara Luciani.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Anne-Lise Giraud avec le cerveau et les mots de la parole chez Odile Jacob. Et bien justement, le premier problème que vous évoquez, c'est l'aphasie. Premier mal traité donc dans cet ouvrage. Et vous le disiez aussi tout à l'heure, hein, traiter les maladies, bah, c'est mieux comprendre les mécanismes justement du cerveau autour du langage. Alors l'aphasie, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors l'aphasie, c'est l'incapacité de soit percevoir, soit produire la parole. Donc c'est un terme très générique. L'aphasie que je décris le plus dans le livre est celle post-AVC, après un accident vasculaire cérébral, où le patient a une lésion de la matière grise qui peut être donc soit dans la partie postérieure, à ce moment-là il y aura un problème de perception de la parole, soit dans la partie antérieure du cerveau, il y aura un problème de production de la parole.
On va écouter justement un document avec une jeune femme qui s'appelle Marie et qui évoque précisément ce qui s'est passé après son AVC pour nous permettre de bien comprendre de quoi on parle avec l'aphasie.
Ce qui m'est arrivé, j'ai pas compris. En fait, j'étais toute seule dans ma maison et j'étais très 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 fatiguée. Et en fait, deux jours... hôpital, et on me dit tout de suite attaque cérébrale et aphasie. Et j'ai compris.
Ah ben, je suis arrivé à l'hôpital, je vois une Marie allongée mais apparemment en bonne forme. On essaye de se parler, et là le choc émotionnel pour moi, elle ne peut rien dire. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas prononcer de mots. Et ensuite, alors, il y a eu des étapes. Hein. Il y a eu des mots d'abord, des mots d'une, puis deux syllabes. Une étape importante, ça a été celle où elle a dit « je », où elle a fait la première phrase avec un sujet, un verbe, un complément, une phrase, un service minimum, en quelque sorte. C'était très bien, ça. Un problème qui est resté et qui est en voie, me semble-t-il, de solution, mais c'est après bien des mois, hein. C'est celui des chiffres. Ne pas pouvoir dire les chiffres tout en pouvant les lire et les écrire, c'est une situation tout à fait paradoxale. Alors c'est très gênant au téléphone, hein. Si on veut prendre un rendez-vous, il vaut mieux envoyer un SMS, hein. C'est plus clair.
Voilà, Anne-Lise Giraud. Donc ça, c'était le mari, hein, justement l'époux de Marie, victime d'un AVC, qui décrit bien justement tout ce qui s'est passé après cet accident.
Ah ouais. Donc ben oui, après un accident, c'est un AVC, c'est une course contre la montre puisqu'il faut reperfuser le plus vite possible les tissus qui sont privés d'oxygène. Donc si on arrive à temps, ben on peut espérer une bonne récupération. Donc il y a différentes façons de récupérer, mais
qu'est-ce qui est endommagé alors autrement dans le cerveau précisément quand on n'arrive pas à temps et qu'on a ces problèmes d'aphasie, alors qu'est-ce qui se passe?
Donc, ce qui est endommagé, c'est la matière grise. Après, c'est les neurones qui ont souffert et qui ont perdu, qui sont morts. Et puis, donc, lorsqu'on veut favoriser la récupération, effectivement, il y a des exercices, il y a des thérapies qui sont très comportementales. On va, et puis là, on nous a bien décrit comment elle progressivement, elle recommence à produire des syllabes, etc. Bon, a priori, Marie a donc un problème dans la partie antérieure, dans la zone de Broca, qui l'empêche de produire de la parole correcte. Et donc, maintenant, il y a des nouvelles techniques en fait qui vont permettre de récupérer mieux que juste avec de l'entraînement. Déjà, on peut essayer de rouvrir un peu la plasticité, parce que ce qu'on va cibler, c'est de réutiliser la zone périlésionnelle. Donc, plus on va arriver à mobiliser cette zone qui est autour de la lésion, plus la récupération va pouvoir se faire.
Et donc là, il faut faire appel à la plasticité du cerveau, justement, à sa capacité de pouvoir trouver un nouveau réseau.
Exactement. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand on perd des neurones d'un côté du cerveau, on a une libération de l'autre hémisphère. Parce qu'en fait, les deux régions qui sont dans les deux hémisphères, elles se parlent l'une à l'autre et elles s'inhibent un peu. Donc quand on perd un côté, on a désinhibition de l'autre. Et les choses sont bien faites dans le sens où la désinhibition de la région de l'autre côté, qu'on appelle controlatérale, va stimuler en fait la zone périlésionnelle. Donc si on intervient en stimulant, que ça soit justement par le comportement ou par de la stimulation qui peut être électrique ou par BCI, Brain Computer Interface.
What's that?
What's that?
Please.
Interface cerveau-machine.
Merci.
Donc, si on arrive à stimuler cette région de l'autre côté, on va favoriser la récupération du côté lésé. Mm-hmm. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles en matière d'AVC, parce qu'il y a des recherches qui sont en cours là-dessus et qui sont extrêmement prometteuses.
Ouais. Alors justement, le temps de récupération, il dépend de quoi exactement? De la gravité de la lésion au départ, hein, c'est ça, hein.
C'est l'étendue de la lésion.
Ouais.
Plus une lésion va être petite, plus du coup elle va pas endommager toute une région fonctionnelle, plus les autres neurones de cette même région fonctionnelle vont pouvoir reprendre le dessus. Par contre, si elle est très étendue, eh ben on va avoir une région qui a un rôle dans notre cerveau qui va être complètement
Et donc ça dépend vraiment de la façon dont on arrive à stimuler cette zone périphérique dont vous parliez tout à l'heure. Hein, la récupération, elle dépend de ça directement.
Elle va dépendre.
Chez les victimes d'AVC, justement, il y a quand même un tiers des personnes à peu près, c'est ça, qui récupèrent intégralement. Donc ça, c'est quand même très encourageant.
Ouais.
Et quand on récupère intégralement, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus aucune chance de retomber, d'avoir à nouveau des problèmes ou...
Bah normalement, oui, quand on a récupéré, on a récupéré. Par contre, quand on a fait un AVC, on risque peut-être d'en faire un autre, donc il peut y avoir ce genre de rechute. Mmh. Mais non, a priori, une fois que c'est compensé, c'est compensé.
Blandine demande si le langage est traité par le cerveau gauche. Qu'en est-il des gauchers? Est-ce qu'il est plutôt à droite ou bien est-ce qu'il se développe différemment?
Vous parlez à une gauchère.
Ah ben voilà, vous connaissez ça par cœur.
Donc la plupart des gauchers sont latéralisés comme les droitiers et il y a des gauchers extrêmement gauchers qui ont le langage à gauche, mais ça reste encore plus rare que d'être gaucher.
Mais les zones du cerveau, elles restent les mêmes.
Oui.
Il n'y a pas de changement particulier. Oui. Alors le bégaiement, autre pathologie justement évoqué dans cet ouvrage, et là il y a beaucoup de messages d'auditeurs. Il y a Jean-Paul qui demande d'abord si le bégaiement s'apparente à une maladie ou à un simple trouble du langage. Est-ce que ça peut se guérir? Alors, sur le front de la recherche, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui?
Alors,
du bégaiement?
Alors, on sait que effectivement il y a des choses qui se passent mal dans le circuit du langage, dans le bégaiement. On sait aussi qu'il y a des traces, donc il y a des anomalies de la matière grise, donc des neurones, et des anomalies de la matière blanche dans le cortex préfrontal, qui est donc le cortex qui permet de planifier la parole.
La différence, pardon, entre le gris et le blanc, c'est quoi?
Les fibres des neurones ou les corps cellulaires des neurones. Donc, on sait qu'il y a des anomalies. Donc, voilà, parce que il y avait toute une théorie sur le côté psychologique dans le bégaiement. Je pense qu'on peut oublier ça. Le psychologique intervient, mais il intervient d'une façon indirecte.
Mais est-ce qu'un choc peut provoquer le bégaiement, justement? Est-ce qu'un trouble psychologique peut, justement, détériorer après cette fonction?
Là, vous me posez une colle. Des chocs,
traumatiques, enfin,
un choc traumatique, oui.
Oui, bien sûr.
C'est clair, ça existe. Émotionnel, je ne suis pas au courant, mais peut-être. on a ces anomalies qu'on voit dans le cerveau gauche. Donc, c'est un peu la même situation que l'aphasie, c'est-à-dire on va avoir face à des anomalies à gauche tendance à compenser avec l'hémisphère droit. Sauf que l'hémisphère droit, il n'est pas aussi bien spécialisé pour le langage que l'hémisphère gauche. Donc, on va aller compenser le bégaiement avec des régions qui sont pas tout à fait bien pour ça. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que dans le cerveau droit des personnes qui bégayent, on a des activations qui sont d'autant plus fortes que la personne bégaye moins. Donc ça, c'est typique d'une compensation. C'est-à-dire, la personne va utiliser le cerveau droit, s'il l'utilise beaucoup, elle va bégayer moins. Mais on se rend compte d'une autre chose également, c'est que les personnes qui bégayent plus du tout, donc elles ne vont pas utiliser justement leur cerveau droit, elles vont utiliser la zone périlésionnelle. Donc on constate la même chose en fait qu'avec l'aphasie dans le bégaiement, c'est que il faut absolument arriver à mobiliser la zone.
Il faut changer de zone en fait, c'est ça? Il y a un recyclage neuronal qui se fait?
Oui, on peut dire ça comme ça. Il y a changement de fonction des neurones autour de la lésion et qui reprennent en charge.
Ça apparaît tôt en général le bégaiement chez
l'enfant? Oui, typiquement vers 3 ans. On a un enfant qui parle normalement puis qui d'un coup se met à bégayer. Et donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que en grosso modo, ce qui se passe fonctionnellement, parce que là je vous ai parlé des lésions, mais fonctionnellement ce qui se passe, c'est que la planification, l'action motrice de la parole va se déclencher avant la possibilité de sélectionner ce qu'il y a, ce qu'on va mettre, le contenu de la parole.
Donc ça va trop
donc,
vite.
Ça va trop vite, ouais. Voilà. Donc ça va trop vite et ça bute parce que il n'y a pas eu le temps d'avoir un vrai bon contenu articulatoire.
On va écouter justement l'extrait de ce film, Le discours d'un roi, qui est sorti en 2011 sur les écrans et qui raconte justement ce problème de bégaiement.
Vulgaire mais fluide. Vous ne bégayez pas quand vous jurez.
Bon Dieu, ça suffit.
Vous ne pouvez pas faire mieux.
Bordel de merde, c'en est trop. Espèce de bâtard.
Même dans les écoles privées, les péteux feraient mieux que cela.
Merde. Merde, fais chier. Merde, merde, fais chier. Merde, 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 merde.
La défécation s'effectue avec bonheur par la bouche.
Parce que je suis en colère.
Un mot qui commence par F.
Fornication.
Voyons, Bertie.
Foutre. Foutre, foutre, foutri, foutra, foutrement, foutre, foutre, bougre d'enculé, bougre, bougre, va te faire foutre, va te faire casser le clic,
excellent.
Couille, couille, trou de balle,
voyez,
cul,
aucune hésitation,
pistouquette, chier, foutre, néné.
Papa, qu'est-ce qui se passe?
Désolé.
Fini tes devoirs pour demain. Voilà une facette de vous-même que vous ne montrez pas souvent.
Non, nous n'avons pas le droit de nous laisser aller, du moins en public.
Voilà, le roi George VI, extrait de ce film, justement, Le discours d'un roi, Annie Giraud, que vous aviez commenté d'ailleurs au moment de sa sortie.
Exactement.
Parce que là, c'est formidable, vous avez une illustration parfaite pour pouvoir en discuter.
Alors là, on voit plein de choses, en fait, l'extrait était très bien choisi.
C'est Stéphanie Texier qui l'a fait, voilà, elle est très contente.
Elle est contente. Oui, parce qu'en fait, on voit, si j'ai bien compris, parce qu'on n'avait pas les images, quand il parle à ses enfants, il bégaye plus, donc il va faire tes devoirs. C'est assez typique. Donc en fait, les personnes qui bégayent, très souvent, ne bégayent pas avec les petits-enfants, tout petits, ils bégayent pas non plus avec leurs animaux de compagnie. Et ils vont se mettre à bégayer lorsque les enfants deviennent adolescents. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a un facteur émotionnel ou pas?
Parce alors justement,
que, pardonnez-moi d'y revenir. Mais
exactement. Ouais. Mais je suis contente que vous y reveniez parce que bon, moi c'est ma théorie. Moi je pense que justement le fait que on doive aller chercher de la compensation dans le cerveau droit, qui est le cerveau émotionnel, ça ouvre une porte d'entrée sur l'intrusion de l'émotion dans le programme moteur. Donc oui, il y a cette composante émotionnelle, mais qui à mon sens passe par le mode de compensation. Mmh. Ce qui fait que quand on va réaliser des thérapies contre le bégaiement, le but c'est d'arriver à relatéraliser à gauche tout le système de la parole.
Et ça se fait comment alors?
Alors, il y a différentes écoles, différentes thérapies, mais grosso modo, c'est toujours l'idée de ralentir la parole pour qu'il n'y ait plus ce blocage, d'adoucir le premier phonème qui est celui qui bloque en général, surtout si c'est une consonne, parce que si c'est une consonne on commence par une constriction et là ça bloque, donc on adoucit ça et on ralentit énormément le débit de parole et on le saccade. Oui, c'est ça. Mais de façon assez lente, jusqu'à créer des automatismes. Donc on change vraiment la plasticité du cerveau, on relatéralise sur cette base lente, et après le sujet, progressivement, une fois qu'il utilise le bon réseau, il peut réaccélérer sa parole.
Alors Jean-Paul demandait tout à l'heure si ça pouvait se guérir, et puis Jean-Yves témoigne en disant, voilà, je me suis rendu compte avec le temps que je pouvais maîtriser le problème en respirant profondément entre chaque mot, c'est ce que vous décrivez, au groupe de mots, en me contractant les muscles, le bras par exemple, régulièrement, ou en prenant un ton chantant. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce qu'il existe une solution médicale si ce problème vient d'un dysfonctionnement génétique, dit-il.
Ah oui, alors donc effectivement il y a une composante génétique parce que deux frères et sœurs ont 20% de chance. Si un frère est bègue, l'autre a 20% de chance de l'être. Il y a des gènes. Alors par contre, on ne comprend pas grand-chose à ces gènes parce que c'est pas, contrairement à la dyslexie et d'autres troubles neurodéveloppementaux, c'est pas des gènes qui sont impliqués directement dans la formation des neurones. Donc le côté génétique n'offre pas des pistes extrêmement intéressantes. Par contre, contre, on a vu que si on prend une souris et que on invalide les gènes en question, les souris vont avoir des comportements de type bégaiement.
Ah bon, on fait bégayer les souris.
Voilà. Elles ont des vocalisations.
Vous faites des drôles de trucs dans vos laboratoires.
C'est pas moi, mais c'est des collègues. Voilà, donc je sais plus.
On peut guérir.
On peut guérir par la thérapie. Et puis, moi, j'ai relativement d'espoir, justement, dans la stimulation transcrânienne en ce qui concerne le bégaiement. Voilà.
Allez, on poursuit la discussion. Vous évoquiez la dyslexie, justement, ce sera la dernière partie de notre discussion avec les messages des auditeurs. Anne-Lise Giraud, vous êtes l'invitée de La Tête au Carré. C'est franceinter.fr pour nous retrouver. Blood Orange à l'instant sur France Inter.
La Tête au Carré sur France Inter.
Allez, Anne-Lise Giraud, encore quelques minutes de discussion avant d'accueillir votre confrère Lionel Nakache pour parler également cerveau. En attendant, c'est le cerveau et les mots de la parole que vous publiez donc chez Odile Jacob avec beaucoup de messages des auditeurs qui arrivent sur le site de l'émission. Anne demande d'où vient le fait qu'à 55 ans, il soit difficile et long de retrouver certains mots quand on en a besoin. Quelques heures après, le mot revient tout seul. Est-ce normal? Que se passe-t-il? Alors, j'allais dire docteur, mais non.
Ah ben oui, malheureusement, c'est normal. Hein. Donc il y a plein de choses qui peuvent se produire et qui font que c'est comme ça. On a des micro-infarctus, on a peut-être un petit peu de dépôt de plaques pas très qui devrait pas être là où elle devrait être. Du coup, c'est tout simplement que les réseaux les plus optimaux sont un peu challengés par des petites anomalies et on doit aller chercher ailleurs. C'est vraiment voilà, on doit activer et puis voilà. Bon.
Mais ça revient. Hein, finalement.
Ça revient, ouais.
Jacques nous dit, suite à un traumatisme crânien, je me suis réveillé d'un coma avec un moment justement d'aphasie. Je ne pouvais rien verbaliser dans ma phase de réveil sans comprendre ce qui m'arrivait. Cela n'a rien à voir avec une paralysie des cordes vocales qui fonctionnait très bien puisque je pouvais justement vocaliser des voyelles. Mm-hmm. C'est ce qu'on disait et ce que vous décriviez tout à l'heure finalement.
Ouais, hein. C'est ça, ouais. Donc là, c'est l'articulation fine qui était atteinte, donc typiquement le cerveau gauche. Donc, la vocalisation, typiquement, voilà, on peut le faire avec le cerveau droit.
Anne-Lise Giraud, la dyslexie dans ce livre sur les mots de la parole, ça peut sembler presque étonnant, non? Parce qu'on pense à l'orthographe, à la lecture, et là, on est vraiment dans le langage et la parole.
Oui, c'est tout l'intérêt de la dyslexie, justement, de notre point de vue à nous, des chercheurs en neurosciences de la parole. Oui, donc la dyslexie, ça paraît être un mal de l'écrit. Et en fait, il suffit de réfléchir à ce qui se passe au moment où on apprend à lire pour comprendre que ça ne peut enfin, qu'il y a de, quand même des grandes chances que ça soit quelque chose de plutôt lié à la parole. Donc, en gros, l'enfant va se développer, va développer un langage sur la base, sur une base syllabique. Puis, quand il arrive à l'âge de 6 ans, on va lui dire, voilà, bah, en fait, à l'intérieur des syllabes, bah, il y a des choses qui, des éléments plus petits. Et ces éléments plus petits, bah, il va falloir que tu fasses le lien avec les graphèmes, les lettres. Et là, donc, soit dans notre tête, on a cette capacité de se représenter ces éléments plus petits, donc un peu, que, ve, etc. Soit on a ce bon format qui est là, présent dans notre tête, ou le format n'est pas bon. Et à ce moment-là, comment mettre en lien un graphème universel correspondant à un son universel avec quelque chose qui est différent. Donc nous, on travaille beaucoup depuis 10 ans maintenant, plus, sur l'hypothèse qu'il y a un, ce qu'on appelle un suréchantillonnage chez le sujet dyslexique, c'est-à-dire qu'il va découper la parole dans des éléments plus petits, plus fins que le sujet contrôle. Et du coup, à l'intérieur d'un phonème, d'un son, d'un peu, d'un que, il va avoir tendance à percevoir plusieurs choses. Et du coup, il y a un encombrement aussi de la mémoire de travail qui se produit, qui est assez typique aussi des personnes qui ont une dyslexie.
Madeleine demande si les instituteurs sont formés à la découverte de la dyslexie aujourd'hui. Parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de mystères, encore plein de questions hein, qui se posent pour les scientifiques. On est loin d'avoir tout compris hein, autour de la dyslexie.
Ah oui, c'est clair.
Ouais.
Oui,
alors, former les instituteurs pour découvrir ça.
Je sais pas si, enfin, je veux dire, c'est un peu trivial. Je veux dire, la dyslexie, la définition, c'est une difficulté à l'apprentissage de la lecture. Donc, l'instituteur, par définition, va repérer les enfants qui ont des difficultés. Je crois que maintenant, quand même, la dyslexie est assez connue et l'instituteur va probablement assez rapidement prononcer le nom de dyslexie. Après, qu'est-ce qu'il y a comme méthode? Bah, y a des méthodes d'orthophonie, y a des trucs. Par exemple, entraîner les enfants à dénommer rapidement des images. Voilà, bon, y a des trucs qu'on peut faire, bien sûr.
Voilà, on découvrira donc dans cet ouvrage un certain nombre de pathologies, le cerveau et les mots de la parole. C'est un ouvrage qui vient juste de paraître chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Annelise Giraud, d'être venue nous en parler aujourd'hui.
Merci à vous.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, mais vous restez avec nous parce qu'il y a un confrère qui vient d'arriver dans ce studio et que vous connaissez bien, c'est Lionel Nakache qui est également neurologue. Bonjour Lionel.
Bonjour Mathieu.
Et c'est
bonjour
vrai qu'avec vous, on va beaucoup parler cerveau cette année sur France Inter.
Ensemble
et,
même.
Et ensemble et dans les salles de cinéma en France puisqu'on va lancer donc le 6 novembre prochain la première conférence sur le cerveau. Avec un premier rendez-vous donc qui sera consacré à la mémoire. Ce sera au studio 104 de la Maison de la Radio, puis retransmis également en direct dans 100 salles de cinéma en France. On en donnera quelques villes tout à l'heure. L'idée, Lionel, c'est de faire le point sur la connaissance, justement, dans ce domaine très vaste qu'est le cerveau, en choisissant des
Oui, c'est comme, comme ce que Annelise disait sur la parole. À la fois, on dispose déjà d'un jeu de connaissances absolument phénoménal, et en même temps, il faut bien reconnaître qu'il y a beaucoup de questions, qu'il reste des défis. Donc, l'idée de cette conférence, c'était de comprendre aussi pourquoi ça peut être intéressant quand on s'intéresse à la mémoire, de faire un détour par le cerveau. Oui. Parce que contrairement à l'intuition, première, c'est pas juste qu'on va chercher quelles sont les régions associées entre la mémoire dans le cerveau, mais souvent, en fait, il y a une sorte de jeu qui se conduit, c'est-à-dire que on pense savoir ce que c'est que la mémoire, et dès lors qu'on cherche à savoir comment elle peut fonctionner ou s'inscrire ou être associée à l'activité du cerveau, au lieu du cerveau, eh bien, en découvrant ces lieux, on va changer notre vision de la mémoire elle-même. Par exemple, on va découvrir qu'il y a différentes formes de mémoire et qu'il y a différents lieux qui peuvent être atteints ou pas, ou fonctionner en concert. Et puis, on va se rendre compte que quand il y a des lieux associés à la mémoire, par exemple du passé, ce sont les mêmes qui sont associés à la capacité à se projeter dans l'avenir. Donc, et plein d'autres choses. Autrement dit, souvent, et c'est vrai, ce que le message qu'on décline là, il est particulièrement vrai pour la mémoire, mais il est vrai pour tout en neurosciences de la cognition, c'est que dès lors qu'on s'intéresse à la manière de laquelle la pensée s'inscrit dans le cerveau, si on veut dire comme ça, c'est pas juste une histoire de cartographie. Ah bah, c'est là, qui en elle-même n'est pas très intéressante, mais c'est que cette visite va nous permettre de voir différemment le phénomène psychologique. Et on va essayer de le faire pour la mémoire ensemble.
Ça va être une vraie visite, effectivement, pour voyager avec vous dans les contrées de la mémoire, des mémoires d'ailleurs, parce que c'est ça dont on va parler. Ce sont ces mémoires au pluriel qui nous concernent dans plein de situations de la vie quotidienne.
Oui, de la vie quotidienne, et là aussi, qui à la fois sont intéressantes pour mieux se connaître, pour mieux savoir comment on perçoit, on se souvient du monde, et aussi un détour par les maladies de la mémoire, et puis aussi un détour par le fait que dès lors qu'on parle de mémoire, ça branche sur des relations intersubjectives, sur la société, donc on va voir comment ces aspects-là aussi se prolongent de l'individu au groupe. une histoire fascinante.
Ouais, on verra même que l'oubli n'est pas un ennemi de la mémoire avec vos...
Ça dépend desquels, on ne cherche pas non plus à être une méthode couée, mais de faire la part des choses en tout cas.
Donc Lionel, on se donne rendez-vous le 6 novembre prochain au 104 de la Maison de la Radio et dans 100 salles de cinéma en France, dont Manosque, Nancy, Angoulême, Paris, Pau, Évry, Bordeaux, Draguignan, Châteauroux, Cherbourg, Castres, Clermont-Ferrand. Il faut se renseigner, c'est très simple, c'est
sur France Inter. Il ne faut pas oublier la date.
Voilà. Absolument, le 6 novembre. Vous vous inscrivez évidemment pour venir nous rejoindre et vous allez sur franceinter.fr. Première conférence sur le cerveau le 6 novembre avec Lionel Nakache. Merci Lionel.
Vida.
À très bientôt.